Jean-Philippe Vincent Foisy. Un regard neuf sur l'actualité, une vision nouvelle des enjeux de la société.
Cube Radio.
Les gens ont failli, que ce soit les propriétaires de RAND, le CIUS, ainsi que le ministère. Fait que ça, pour moi, c'est indéniable. Il n'y a pas d'organisie là-dessus. Je l'écris noir sur blanc. Les gens se sont passés là-bas. Personne n'a pris en charge. T'sais, tout le monde s'est écrit. Il y a eu beaucoup de courriels qui sont passés, mais pendant ce temps-là, des gens mouraient.
La coroner Jeanne Kamel, hier, qui expliquait, qui donnait les détails sur son rapport et qui est revenue notamment sur le CHSLD Heron en disant « Les propriétaires, le CIUS, le gouvernement, tous ont leur part de responsabilité là-dedans. » Ce matin, on va revenir sur ce rapport-là, sur la présentation du rapport avec Peter Whelan, dont les parents sont décédés dans les CHSLD du Québec au printemps 2020. Monsieur Whelan, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, quand vous avez vu le rapport cette semaine, quand vous avez entendu la coroner Jeanne Kamel hier, comment vous vous sentez?
J'avais plusieurs émotions là, parce que ça fait 2 ans maintenant qu'on parle de ce qui est arrivé chez Héron, là, puis on a hâte que ça finisse, ça m'a amené, là, mais le rapport du coroner, c'était quelque chose qui était très attendu. Je pense que, grosso modo, ses recommandations étaient bien fondées. J'écoutais la conférence de presse hier. J'ai trouvé que Mme la coroner était beaucoup plus polie que nous, les familles, étaient là, face à le manque de
imputabilité.
Oui, c'est ça. C'est parce que même si la directrice générale de le CIS du Ouest de l'île a décidé de ne pas chercher un autre mandat, elle n'a pas vraiment pris responsabilité pour tout ce qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait pendant la pire période chez Héron. Alors, on cherche toujours d'avoir quelqu'un qui prête de dire ah oui j'avais tort, que j'avais fait des erreurs, puis je m'excuse, tu sais, puis ça on n'a toujours pas attendu de qui que ce soit.
Parce que il y a peut-être, bon, la coroner disait Marguerite Blais a peut-être été la seule à dire c'est vrai, avant le mois de mars on n'a rien fait, l'angle mort était les personnes âgées, était les CHSLD, peut-être la seule qui a été jusque là. Mais ce que vous dites, c'est qu'en ce moment il y a personne qui a dit d'accord, regardez, c'était de ma faute, je prends les responsabilités, mais plus que juste de le dire, je prends les responsabilités comme le gouvernement l'a fait là, mais dire non, on a commis une erreur, on va en payer le prix, il va y avoir des choses qui vont changer. Ça, vous dites, on le voit pas en ce moment.
Oh, tu prends par exemple, il y a une fameuse directive du sous-ministre Yvan Gendron qui disait aux gens de CHSLD de ne pas envoyer les résidents positifs avec le COVID, de ne pas l'envoyer à l'hôpital. Puis lui, sa réponse après, c'était j'ai pas imaginé que les gens prendraient ça jusqu'à la fin, là. De prendre ça littéralement, là, mais évidemment, là, c'est une directive du ministère. Alors, les CHSLD ont arrêté d'envoyer les patients à l'hôpital à cause de ça. Mais, lui non plus, il n'est pas pris responsabilité pour. Moi, je suis certain que le fait que le Québec était une meneur mondiale dans les morts dans la première vague de COVID, avec 4000 morts, là, c'était. Il y en a beaucoup de ces morts-là qui sont directement liés à cette directive du ministère.
Oui, puis lui est encore là.
Oui.
Rappelez-nous un peu votre histoire, parce que je lisais sur ce qui s'est passé pour vos parents, puis ça illustre à quel point c'était le bordel là, dans tout ça, là, de voir vos parents, des transferts. Une fois qu'ils étaient à l'hôpital, ça a été compliqué. Vous l'avez vécu, ça, de l'intérieur, ce cafouillage total-là, là.
Oui, c'est ça. Ben, le quarantaine a commencé le 15 mars. Mon père a été transféré de Heron à un autre CHSLD le 17 mars au CHSLD La Salle. Il était mort à La Salle 2 semaines plus tard. Il a attrapé le COVID. Je ne sais pas si c'était chez Heron ou à La Salle qu'il a attrapé le COVID, là. Mais c'était l'enfer là ou aussi à La Salle. C'était pas juste chez Heron qu'il y avait complètement un cauchemar, là. C'était un cauchemar à La Salle aussi. Puis ma mère était toujours chez Héron pendant la période. Là. Elle était là le fameux le soir du 29 mars. Là. On a reçu un appel le matin de ma mère en disant que personne ne l'a passé dans son chambre pour sortir de son lit parce qu'il n'était pas capable de sortir seul. Puis il n'y avait pas de petit déjeuner. Puis pour le lunch, c'était juste son voisine qui est passé l'assiette qui était laissée dans le corridor. Alors, c'était juste le soir qu'on a finalement eu une réponse de quelqu'un, un peu posé, a finalement rentré dans la chambre de ma mère. Puis, on savait que ma mère était malade avec le COVID. J'avais des soupçons. J'ai essayé à plusieurs reprises de convaincre l'agent de Aaron à faire un dépistage. Puis, ils l'ont refusé, carrément refusé. Alors, finalement, le 12 avril, on a dit, OK, c'est assez, là, envoie ma mère à l'hôpital, on veut qu'elle soit testée, puis elle était testée, puis elle avait le COVID.
Il doit y avoir quelque chose de frustrant quand vous regardez ça. Vous étiez là, vous le disiez, vous vouliez prendre un peu le monde, je présume, par le collet pour dire, hey, réveillez, agissez. Puis après ça, de l'autre bord, quand vous avez le portrait de ce qui se passait en haute instance, dans le ministère, dans le CIUSSS, puis là, c'est pas de ma faute, voici la directive, on change de directive, c'est pas clair, le CIUSSS le savait, a rien fait, même fait un appel au 911 déguisé le 11 avril. Et aujourd'hui, malgré le temps qui a passé, il doit encore avoir cette frustration-là de voir tout ça, puis d'avoir été laissé pour compte, puis abandonné, pas juste par une PDG, mais par un système au complet.
Ben oui, c'est ça. C'est le 29 mars, quand c'était la pire soirée, là, quand il y avait juste comme deux ou trois employés dans tout le bâtisse, là, avec l'arrivée du CIUSSS, on pensait que OK, les pompiers sont ici maintenant, ils vont éteindre le feu. Puis deux semaines plus tard, on a appris que les pompiers ils n'ont rien fait.
Les pompiers ont appelé le 911, là.
Oui, c'est ça. C'est le CIUSSS, on pensait que c'était le Calvary qui arrivait, là, mais en fin de compte, ils n'ont rien fait pendant deux semaines. Et puis quasiment rien fait, là. C'est incroyable. T'sais. On a pensé que le problème était réglé. Puis on était soulagés. Mais deux semaines plus tard, on était déçus. Puis pire encore, on a appris seulement pendant l'enquête du coroner que pendant toute cette période du 15 mars jusqu'à le 12 avril, les médecins de famille de Héron n'ont pas rentré un pied dans le bâtisse, à part d'une exception. Et ça, c'est incroyable. La médecine qui était responsable pour mes parents, par exemple, elle avait 60 résidents, patients, au deuxième étage de Héron. Puis 15 étaient morts dans cette période. Puis il n'a pas sondé l'alarme, il n'a pas rentré dans le bâtisse. Je trouve ça incroyable. Inconcevable.
Parce que même pour nous, quand on apprenait ce qui s'était passé pendant les témoignages, je vais vous admettre qu'à certains moments, j'étais en colère de notre société, de dire « voici ce qui s'est passé ». Sincèrement, nous, comme société riche, évoluée, c'est ce qu'on a fait subir à nos aînés. Je peux juste imaginer les familles, quand vous étiez là, quand vous l'entendiez, cette impuissance-là doit être frustrante, là.
Pas juste l'impuissance, mais le fait qu'on n'était pas, on n'avait pas le droit de rentrer dans le bâtisse, d'aider nos parents, t'sais. Parce qu'il y avait deux effets du fait d'avoir, disait aux familles que vous pouvez pas rentrer. Première, c'est qu'il y avait personne pour sonner l'alarme. Qu'il y avait des problèmes à l'intérieur du bâtisse. Parce que les employés de l'État, ne peuvent pas parler de ça publiquement. Alors, si les familles étaient là, on aurait parlé de ce qui était arrivé. Ça n'aurait pas pris deux semaines de sonner l'alarme. Deuxièmement, les familles aident avec toutes sortes de choses. Faire manger, nettoyer, toutes sortes de choses. On était capable d'aider dans une période de crise, sauf que notre aide était, au lieu de demander notre aide, on était fermé à l'extérieur du bâtisse pendant que nos parents mouraient à l'intérieur. C'est comme, je disais que c'était comme on essaie de protéger nos aînés de lions en mettant dans une cage, mais le lion était toujours dans le cage et non pas à l'extérieur. T'sais. Alors, on a fermé nos parents dans le cage avec le lion.
Aïe, aïe, aïe. Peter Whelan, merci de nous avoir expliqué ça, de rendre ça aussi humain, puis de savoir que ces gens-là, quand on parle des CHSLD, quand on parle de ces chiffres-là, c'était des humains, c'était des parents, des frères, des sœurs, Kenneth, Constance, vos parents. Merci beaucoup de votre témoignage. J'espère que vous allez pouvoir fermer ce chapitre-là, que ce qui va être fait aussi au gouvernement va pouvoir nous permettre d'éviter que l'angle mort des aînés soit encore un de nos angles morts. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin.
OK, désolé.
Peter Whelan, donc, qui témoignait de ce qui s'est passé au lendemain du témoignage, en fait, de la coroner qui a présenté son rapport sur les CHSLD dans la première vague de la COVID.